France Inter.
Bonjour à tous. C'est une traque impitoyable qui se déroule sur le sol français contre les opposants au pouvoir en place en Azerbaïdjan. Chantage, menaces et même assassinat. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur ces commandos chargés d'éliminer les voix dissidentes azerbaïdjanaises en France, mais aussi dans d'autres pays européens.
Secret d'info. Benoît Colombat sur France Inter.
Lorsque vous dites un mot négatif sur ces personnes, ils vous poursuivent en justice ou vous tuent immédiatement. Ils ne le font pas de leur propre chef, ils le font avec le consentement du président Ilham Aliyev.
L'Azerbaïdjan accusé d'assassinat politique. Le président en personne, Ilham Aliyev, a dû se justifier devant la presse.
Je récuse à 100% ces accusations sans preuve, sans enquête, sans fondement et partiales.
Voilà, c'était en novembre dernier dans l'œil du 20h sur France 2, un reportage consacré aux opposants politiques ciblés sur le sol français par l'Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique tenue d'une main de fer par le président Ilham Aliyev, qui dément, lui, on vient de l'entendre, toute ingérence en France et en Europe. On va y revenir dans un instant, mais ce qu'il faut d'abord dire, Philippe Reltien, c'est qu'en Azerbaïdjan même, plusieurs voix critiques ont été assassinées ces dernières années.
Oui, en effet, d'abord des journalistes, trois, l'un criblé de balles en 2005, l'autre poignardé en 2011 et le troisième lynché à Bakou en 2015.
Et c'est la raison pour laquelle plusieurs opposants ont décidé de quitter le pays.
Oui, pour se réfugier en Europe, mais là encore, ils ne sont pas complètement à l'abri. Et la liste est longue. On peut citer l'exemple d'Orkan Agaïev qui s'est fait tabasser par des inconnus sous son balcon à Berlin et qui en plus est poursuivi en diffamation par le régime de Bakou. Un autre, toujours en Allemagne, Gabil Mamadov, a lui été attaqué à la bombe lacrymogène en pleine rue.
Et parfois, ça va plus loin avec des morts qui peuvent sembler suspectes.
Oui, comme cela s'est passé en Turquie en 2021, Behram Mamadov, un tagueur emprisonné à Bakou pour avoir badigeonné la statue du père de l'actuel président, a été repêché dans le Bosphore. Une mort dite suspecte par la police turque. On peut également citer le cas d'Hussein Bakikanov, un journaliste tombé du toit de son hôtel à Tbilissi, ici en Géorgie, après avoir été agressé sur la voie publique. Ou bien la noyade de Vukar Erza, un enseignant malvoyant opposant au régime, réfugié en Belgique. Son corps a été rapatrié en Azerbaïdjan avant de connaître les résultats de l'autopsie. Les polices géorgiennes et belges ont conclu à des suicides.
Et ce qu'il faut préciser, Philippe, c'est que parmi ces opposants, il y a de nombreux blogueurs.
Oui, et qui sont libres de pouvoir critiquer le régime de Bakou, et ils le font souvent de manière très virulente. Ils sont d'ailleurs très suivis. C'est le cas par exemple du blogueur Elshad Mamedov, réfugié à Bâle en Suisse, où depuis 5 ans il anime une chaîne sur YouTube et qui visiblement dérange, comme l'explique la journaliste d'intelligence online Alice Pontalier.
Lui a reçu des menaces, évidemment, sur les réseaux sociaux et également en message d'un individu non identifié. Menaces de mort, évidemment, en plus illustrées de même de photographies de couteaux de chasse. La volonté n'est d'ailleurs pas de se cacher. C'est vraiment de mettre les menaces à exécution.
Et ces menaces contre ses opposants, elles ont effectivement été mises à exécution, cette fois sur le sol français, il y a seulement quelques mois.
Oui, c'était le 29 septembre dernier à Mulhouse. Il était 6h30 du matin. Vidadi Isgandarli, réfugié depuis 6 ans en France, est attaqué à son domicile par plusieurs individus. Il est gravement blessé, mais il a la force d'alerter son frère Oktay sur WhatsApp pour qu'il vienne à son secours. Nous avons fait traduire les propos de son frère.
Et mon frère crie « Police, police !» Vidadi, Vidadi, dis-moi.
Ils sont rentrés par la fenêtre. Il y en a un, il a pris une main droite, l'autre, il a pris une main gauche. Ils étaient tous masqués. Il y en a un, il a pris un couteau et il le prenait à coup de couteau. Voilà, ils criaient « À l'aide, police, police, police !» Dès qu'ils ont entendu qu'ils criaient vraiment fort, super fort, ils sont partis. Mais avant ça, Vidadi, il leur a proposé « Prenez mon téléphone, prenez tout mon argent, prenez tout ce que vous voulez dans l'appartement. » Mais eux, ils n'étaient pas là pour l'argent et ce qu'il y avait dans la maison. Ils étaient là vraiment pour le tuer.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Le frère de Vidadi Isgandarli appelle immédiatement une ambulance et il se précipite sur place.
Je ouvris la porte ambulance et demandais qui attaque toi ?
Dans la voiture du SAMU, et il a demandé à son frère, qui t'a fait ça ? Qui t'a fait ça ? Et son frère, il a dit, les personnes que je suppose qui m'ont fait ça, ils viennent directement d'Azerbaïdjan, parce que j'ai critiqué l'Azerbaïdjan.
Et deux jours plus tard, Vidadis Gandarli meurt à l'hôpital des suites de ses blessures. Il avait 62 ans.
Mais qui c'était exactement cet homme ?
À l'origine, c'est un magistrat, ancien procureur à Bakou, devenu un opposant politique au régime. En 2007, il soutient la révolution orange en Ukraine et il défend les opposants azerbaïdjanais arrêtés illégalement. En 2010, il critique les élections truquées et le président Aliyev à la télévision. Il est alors condamné à 3 ans de prison et lorsqu'il sort de détention, il s'adresse à la foule. Et dans ce discours très offensif contre le régime, Vidadi Isgandarli dit qu'il songe à quitter définitivement l'Azerbaïdjan avec sa famille. Et c'est ce qu'il fait en 2016. Il s'exile en Géorgie avant, un an plus tard, d'arriver en France avec un visa humanitaire. Et en février 2018, il obtient le statut de réfugié politique.
Et depuis la France, il irritait vraiment le pouvoir à Bakou ?
Oui, notamment à travers sa chaîne YouTube, quand il s'en prend à la corruption dans l'armée ou au sein de la famille présidentielle. Mais il ne fait pas que ça. Il va manifester régulièrement avec son frère à Strasbourg, sous les fenêtres du Conseil de l'Europe ou devant la Cour des droits de l'homme, avec les drapeaux ukrainiens et azerbaïdjanais. Et toujours selon son frère Oktay, le commando qui s'en est pris à lui n'a rien laissé au hasard.
Qu'il leur parvienne avant peut-être 7 mois.
Ces personnes-là, ils ont fait une enquête vraiment pendant longtemps. Peut-être 1 an, peut-être 7 mois, peut-être 8 mois, il ne sait pas, mais ils ont fait un travail de vrai professionnel.
6 mois, regardez, Vidadi compte sortir maison.
Ils ont mis l'échafaudage pour prendre des informations, à quelle heure il se couchait, à quelle heure il était à la maison, tout ça. Ils ont vraiment travaillé dessus, ils ont fait une enquête vraiment sérieuse et un repérage des lieux et à quelle heure il rentrait, à quelle heure il dormait, à quelle heure les volets étaient fermés. Pour être bien renseignés, ils ont attendu le bon moment pour s'attaquer à Vidadi.
Et quelques jours après la mort de Vidadi Isgandarli, un message de menace est envoyé à l'un de ses amis dissidents, le blogueur réfugié en Suisse qu'on évoquait il y a quelques instants, celui qui a reçu des photos de couteaux de chasse.
« Salut, ça va ? On a tué ton ami Vidadi. On va te tuer. On connaît ton adresse à Bâle. On te suit. On va te poignarder 50 fois chez toi. On va te frapper là où tu dors, dans ton lit. C'est notre dernier avertissement. Excuse-toi et passe du côté du gouvernement. Bientôt, on va te poignarder et te couper la tête. »
Mais tout ça fait effectivement froid dans le dos. Et ce que vous avez découvert, Philippe, c'est que quelques jours avant l'assassinat de cet ancien magistrat azerbaïdjanais à Mulhouse, une alerte avait été lancée.
En effet, par l'intermédiaire d'un journaliste opposant au régime, réfugié, lui, à Strasbourg. Il s'appelle Ganimat Zaïd. Et depuis 2011, il anime depuis la France une chaîne sur YouTube. Et il m'a raconté qu'une source haut placée à Bakou lui a transmis une liste d'opposants que le régime de Bakou souhaiterait abattre. Ses propos sont traduits.
C'est la source de Bakou et la personne qui a partagé toutes ces informations avec lui qui a mis en risque sa vie.
Ouais, une source officielle qui prend donc des risques en transmettant cette liste d'hommes à abattre. Et il y a qui dans cette liste ?
5 personnes réfugiées en Europe, dont le journaliste en question, Ganimat Zaïd, mais aussi l'ancien procureur Vidadi Isgandarli, qui sera poignardé à 100 km de là, à Mulhouse.
Et ce journaliste, il en fait quoi alors de tous ces éléments ?
Eh bien, le 16 septembre 2024, c'est-à-dire 13 jours avant l'assassinat à Mulhouse, il contacte l'organisation Reporters sans frontières, dont il est membre. Et l'ONG alerte à son tour les services de l'État, comme en témoigne Jeanne Cavelier de RSF.
On a effectivement transmis cette liste à des policiers. On leur a donné tous les éléments qu'on avait en notre possession pour pouvoir faire des recoupements et trouver les personnes en danger imminent. Prioriser les menaces, c'est le travail de la police. C'est pas le travail des organisations de défense des droits de l'homme ni de RSF. Après, c'est à la police d'évaluer. Donc moi, je peux pas juger leur travail, même si l'assassinat a été extrêmement choquant pour nous.
Oui, l'assassinat de l'opposant Vidadis Gandarli, qui, je le rappelle, a donc eu lieu 13 jours après cette alerte. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, Philippe ? Cette alerte, est-ce qu'elle a vraiment été prise en compte par la police ?
Alors oui, 3 jours après avoir contacté Reporters sans frontières, 2 agents du renseignement vont rencontrer le journaliste Ganimat Zaïd à Strasbourg. Mais le risque a peut-être été sous-évalué. C'est en tout cas ce que pense la journaliste Alice Pontalier, qui a longuement enquêté sur le sujet pour Intelligence Online.
Les services de renseignement, la DGSI, la DGSE, ne s'attendaient pas à un tel proactivisme de Bakou. Il y a eu un effet de surprise. Ils s'attendaient à ce genre de démarche de la part de la Russie, mais pas de l'Azerbaïdjan. Et je pense que cet effet de surprise, évidemment, je ne veux pas donner d'explication qui dédouanerait qui que ce soit, mais qui a pu jouer et qui a pu faire en sorte qu'il y ait eu cette sidération, en fait.
Et je précise que nous avons contacté le renseignement intérieur qui n'a pas souhaité réagir.
Bon, mais est-ce que vraiment on peut parler d'effet de surprise, Philippe ? Parce que c'est pas la première fois que des opposants azerbaïdjanais échappent de très peu à la mort sur le sol français.
Effectivement, il y a un précédent assez spectaculaire. C'est celui du blogueur Mahamad Mirzali, réfugié à Nantes, l'un des ressortissants étrangers les plus protégés de France, avec 5 gardes du corps.
Et d'ailleurs, on avait raconté son histoire il y a 2 ans dans Secret d'Info.
Oui, et comment il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. En 2020, l'arme de son agresseur s'est enrayée. En 2021, il en a réchappé par miracle. Écoutez son témoignage traduit qu'on avait diffusé dans Secret d'Info.
J'ai essayé de me protéger entre la poubelle et le trottoir. D'abord mon cœur, ensuite la tête et les bras, tout ça. Ils étaient plusieurs personnes. Un qui me tire les cheveux, l'autre essaye de m'ouvrir la bouche parce qu'il voulait me couper la gorge, peut-être la langue aussi. Et le premier coup de couteau est arrivé donc au niveau du front, carrément donc la tête par terre. Et là, donc ils ont coupé la tête au niveau du cou.
Il a reçu 16 coups de couteau, mais il s'en est sorti une nouvelle fois et conserve depuis une large cicatrice sur la nuque.
Et puis, il y a une 3e tentative d'assassinat contre lui.
Oui, et là, on est en juin 2022. 2 hommes sont interpellés dans 2 véhicules au péage de Corzé, près d'Angers. Les douaniers découvrent alors une arme à feu et plusieurs couteaux, mais ils constatent surtout que l'adresse de Mahamad Mirzali est programmée sur leur GPS. Une expédition punitive contre le blogueur, donc, qui explique avoir été prévenu grâce à une source interne au régime de Bakou. Il nous le dit cette fois en français.
2 semaines avant, un mec m'a informé que, attention, un groupe vient pour moi.
Pour te faire la peau.
Pour moi. Directement, je pars au commissariat, dépose plainte, je informe mon protection.
C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés.
Oui. Après, c'est 2 semaines après, il a arrêté le péage.
Et là, en l'occurrence, l'alerte a bien fonctionné. 2 hommes sont donc arrêtés à ce péage près d'Angers, mais ça ne s'arrête pas là.
En effet, d'autres individus sont arrêtés dans les jours ou les mois qui suivent. L'un en Allemagne, l'autre à Varsovie, un autre qui se trouve encore en Hongrie. Et finalement, en octobre 2024, 10 personnes sont renvoyées devant les tribunaux.
France Inter, Secret d'Info, Benoît Colombat.
Alors, on a vu que plusieurs opposants azerbaïdjanais étaient menacés de mort et qu'à Mulhouse, les tueurs sont passés à l'acte. 10 personnes seront donc jugées pour des tentatives d'assassinat contre le blogueur Mahamad Mirzali. Et quel est leur profil à ces individus ?
Ce sont des tueurs à gages turcophones ou russophones. Certains ont fait l'armée, d'autres de la prison pour meurtre. 8 sont azerbaïdjanais, 1 est géorgien et 1 autre turc. Tous pratiquent la lutte et les arts martiaux. Certains ont traversé toute l'Europe depuis l'Azerbaïdjan ou la Turquie, et ils ont recruté des petites mains pour dormir, s'acheter des armes ou du matériel d'espionnage. Et parmi ces 10 personnes, on en trouve au moins 3 qui sont membres des Vorizakoniers.
Les Vorizakoniers, qu'est-ce que c'est ?
C'est du russe, ça veut dire « voleur dans la loi ». C'est un groupe criminel originaire des pays du Caucase. Avec ses codes et une manière bien particulière de s'afficher par le tatouage, avec des étoiles sur le poitrail ou des bracelets sur les biceps, comme l'explique le journaliste au point Jérôme Pierra, spécialiste du grand banditisme et auteur d'une série en bande dessinée sur les Vores.
Le plus connu, ce sont les étoiles à 8 branches qui sont positionnées sur les épaules et sur les genoux.
Ça veut dire que je refuse de plier devant l'autorité. Donc je ne porterai pas l'uniforme, sur les genoux je ne m'agenouillerai pas devant le pouvoir étatique. En gros, c'est un signe de rébellion, de marginalité, etc., etc. Ça, c'est censé être le signe distinctif suprême. Et puis, ça peut être doublé d'épaulettes. Alors, comme des épaulettes d'uniforme, hein, faut imaginer le truc avec les petites franges, etc. C'est tatoué entièrement. Il y a souvent le N de Napoléon dessus. Donc, ils se font des épaulettes napoléoniennes avec le N. Et ça, ça signifie « autoritet » en russe. Excusez-moi, j'ai pas vraiment l'accent. Donc, « autorité criminelle », ça, c'est le vrai signe du caïd, en fait.
Oui, sauf que ces caïds, ces voleurs dans la loi, ils sont en fait intimement liés au pouvoir.
Oui, en lien avec des oligarques ou de grands groupes gaziers ou pétroliers. Et ces mafieux, on les trouve par exemple sur le grand marché russe de Food City, le Rungis de Moscou, si vous voulez, où l'on trouve un peu de tout. L'un des hommes renvoyés devant la justice y tenait justement un magasin d'électronique, avec beaucoup d'argent à la clé, évidemment, souligne le criminologue Jean-Philippe Savry.
S'emparer des marchés, pour les Azéris, c'est dominer sa diaspora. Tout simplement. Pour eux, à la fois, c'est du pouvoir et c'est aussi énormément d'argent. Pour parler de Food City, les chiffres que j'ai de 2020, ça fournissait à peu près 70% des légumes et 25% de la viande de la région de Moscou, qui concerne quand même 10 millions d'habitants. Et un journal russe parlait de 100 000 roubles par camion. C'est-à-dire que chaque camion qui arrivait d'Azerbaïdjan ou d'Arménie payait 100 000 roubles, juste pour passer la douane, et qui allait directement dans les poches évidemment criminelles.
Et c'est en ponctionnant ainsi les marchés que certains de ces vorizakoniers édifient de véritables fortunes, comme Jérôme Pierra a pu le constater de ses propres yeux.
Je me souviens, moi, de Zakhar Kalachov, qui a été incarcéré en Espagne. C'est un Géorgien. Donc, lui, il était le vor des vors, le vor suprême pendant un moment, le numéro un. On avait visité sa maison. Elle avait été saisie. Et la maison, c'était espèce, on aurait dit la Maison Blanche, déjà. Là, le même genre, avec les colonnes, la même dimension, le parc et tout. Héliport sur le toit. À l'intérieur, comme dans James Bond, ascenseur vitré blindé. Et il avait une bibliothèque. Alors, ça avait fait rire beaucoup les policiers parce qu'il n'y avait aucun livre dans la bibliothèque. Elle était magnifique. Et le sol, en revanche, était en marqueterie. Et ça représentait la rose des vents des vores, l'étoile à huit branches. Et il y avait d'ailleurs dans cette bibliothèque un pan qui se déplaçait pour qu'il puisse fuir en cas d'intervention policière par le jardin. Il y avait un tunnel. Et chez un autre vore, lui, il avait carrément construit la maison en forme d'étoile à huit branches de rose des vents, du symbole des vores.
Et ces vores, est-ce qu'on les retrouve aussi en France ?
Eh bien oui, un peu partout, et notamment dans le trafic de cigarettes. En 2023, la police française a d'ailleurs procédé à plusieurs vagues d'arrestations. Mais au-delà de leur propre business, ces vores peuvent aussi agir pour le compte d'un pouvoir politique, estime à nouveau Jérôme Pierra.
On va utiliser ces gens, on va leur dire, en gros, vous avez vos activités criminelles, certes. On va vous laisser investir ici, et en contrepartie, nous, on va vous demander de rendre des services à l'étranger. Donc d'aller traquer des opposants, ils rendent des services aux autocrates qui les dirigent chez eux. Ils blanchissent leurs revenus criminels au pays et en contrepartie, ils nettoient les opposants dans les pays où ils sont en exil.
Ouais, ils nettoient les opposants, autrement dit, ils les tuent. Maintenant, si on revient aux tentatives d'assassinat contre le blogueur Mohamed Mirzali, Philippe, est-ce qu'il y a des liens entre ceux qui ont été arrêtés, qui sont donc poursuivis par la justice, et le pouvoir de Bakou ?
Alors, l'enquête judiciaire n'a pas permis d'identifier jusque-là les commanditaires, mais il y a une série d'éléments troublants qui convergent vers une société toute puissante en Azerbaïdjan, la Sokar.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la société pétrolière et gazière d'État, liée à la famille Aliyev et à toute une série d'hommes d'affaires. Et ce qui est troublant, c'est une écoute téléphonique effectuée en prison le 13 octobre 2022 dans la cellule du chef présumé du commando de Nantes. Une écoute déjà évoquée par nos confrères de Libération et dans laquelle il est question justement de la Sokar. Nous avons fait lire le contenu de cette écoute.
L'avocat dit qu'il y a des preuves que j'étais là-bas, qui vont me poser d'autres questions. Comme vous connaissez Sokar, je vais leur répondre que c'est en Turquie. Ils vont me demander si je connais Anna. Je vais leur répondre, c'est qui ? Je le connais pas, c'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Je vais leur répéter que je suis pas au courant au sujet du blessé, que je connais pas non plus celui qui l'a blessé, ni celui qui aurait ordonné de le blesser.
Oui, le blessé dont il est question, on imagine qu'il s'agit de Mohamed Mirzali, mais dans cette écoute, il est également question d'un prénom, Anar. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Eh bien, selon Mohamed Mirzali, il pourrait s'agir d'Anar Alizadeh. un homme d'affaires qui, selon son propre site internet, a revendu ses parts dans la Socar en 2012 et qui poursuit le blogueur en diffamation. Mais Anar Alizadeh lui dément catégoriquement tout lien avec cette affaire. Il s'agit selon lui d'allégations non fondées qui s'inscrivent, je le cite, dans une campagne délibérée et coordonnée de certains opposants visant à nuire à sa réputation personnelle et professionnelle.
Bon, en tout cas, au-delà de ce dossier particulier, ce qui semble assez évident, c'est que ses opposants, ils sont suivis de près par le renseignement azerbaïdjanais.
Oui, c'est ce qu'a démontré Alice Pontalier dans une série d'articles pour Intelligence Online, où on détaille l'organigramme des services secrets azerbaïdjanais.
Il y a parmi eux, par exemple, le chef du DTX, qui en fait est le service donc, de renseignement d'Azerbaïdjan, qui s'occupe aussi du renseignement extérieur, qui s'appelle Ali Nagiyev. Il y a aussi ce qu'on appelle en fait le maître espion tout puissant presque d'Azerbaïdjan, qui s'appelle Bayler Eyyubov, qui est le protecteur de la famille Aliyev. Parmi ces services de renseignement, une seconde strate, je dirais, de personnes chargées de repérer les opposants à travers l'Europe. Pour nous, c'est vraiment un système qui est mis en place, un système de répression des voix dissidentes qui sont en exil et qui sont réfugiés en Europe, donc ça se joue à un niveau assez élevé entre les pays.
Et c'est ce système qui sera forcément en arrière-plan du procès à venir des assaillants du blogueur Mamad Mirzali qu'on évoquait à l'instant.
Oui, et lui espère bien qu'on remontera jusqu'au commanditaire. Et il mène d'ailleurs toujours sa propre enquête. Le procès se déroulera dans les prochains mois devant la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine. Et pour le criminologue Jean-Philippe Savry, ça pourrait avoir des conséquences.
Il est évident qu'aujourd'hui, voir des réseaux comme ça de tueurs qui agissent pas seulement en France, mais un peu ailleurs en Europe de l'Ouest, voilà, on peut tirer un fil, quoi. Voilà, c'est peut-être le premier fil ou le premier domino qui tombe. Et là, ça pourrait être très gênant, évidemment, pour la géopolitique, et même pour l'aura de l'Azerbaïdjan, si on apprend que, voilà, on emploie des tueurs pour éliminer des opposants. Et surtout, si on apprend qui donne les ordres.
Et pour ce qui concerne l'assassinat de l'ancien procureur réfugié à Mulhouse, pour le moment, l'enquête n'est pas remontée jusqu'au tueur.
Bien alors, on va s'arrêter là, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va continuer d'explorer les coulisses obscures de cette histoire avec un ancien espion de Bakou qui se prétend désormais lanceur d'alerte.
Amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto e ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, ho mai avuto un momento. Nessuno mai.
violon, guitare et trompette avec sa touche bien à lui, Un Momento Migliore, le dernier titre du Turinois Andrea Laszlo de Simone, qui avait signé la bande originale du Règne Animal, en attendant son nouvel album prévu d'ici l'été prochain.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombin.
Et retour à notre enquête sur la piste des commandos susceptibles d'agir en Europe et notamment en France pour traquer les opposants azerbaïdjanais. On a vu que les services secrets de Bakou avaient particulièrement à l'œil ces exilés qui critiquent le pouvoir. Et justement, Philippe Reltien, l'un de ces présumés espions a décidé de sortir du silence.
Oui, il s'appelle Ramazan Yaman, mais sa véritable identité, c'est Rovshan Aliyev. Il a 39 ans et il se présente effectivement comme un ancien membre du renseignement intérieur azerbaïdjanais, un service secret qui s'appelle le DTX. Et le premier à avoir recueilli son témoignage au lendemain de son arrivée en France, c'est le journaliste exilé à Strasbourg, Ganimat Zaïd. Voilà comment ça s'est passé.
Bir sıra cinayetlerin, bir sıra şəxslərə qarşı cinayetlerin həyata keçirilməsi üçün göndərildiğini dedi.
Il m'a contacté par WhatsApp et il m'a expliqué qu'il était envoyé par service secret de l'Azerbaïdjan pour punir des opposants et militants azerbaïdjanais.
Alors, il donne une liste?
Liste verib.
Yox, xüsusi bir siyahı, belə deyə, mənə oxumayıb, sadəcə adlar çəkib.
En fait, il n'a pas vraiment donné une liste, mais il a cité les noms.
Oui, donc cet homme a cité des noms d'opposants en danger, mais qui alors ?
Eh bien, le nom de plusieurs opposants réfugiés en Europe, dont Ganimat Zaïd, qu'il interviewe, mais aussi Vidadis Gandarli, vous vous souvenez, l'ancien procureur devenu opposant politique et qui sera assassiné un an plus tard à Mulhouse. Et dans son témoignage, cet homme explique que le renseignement de Bakou lui a demandé de recruter des tueurs à gages. Et il met également en cause la société pétrolière et gazière d'État, la SOCAR.
Bon, et les autorités françaises, elles font quoi avec cet homme ?
Bah, elles sont un peu embarrassées en se demandant qui il est vraiment et s'il n'y a pas un double jeu de sa part. Quand il arrive en France en septembre 2023, il demande l'asile politique qui lui est immédiatement refusé. Et depuis, il est emprisonné à Fresnes.
Et pourquoi ?
Parce que la Russie réclame son extradition et considère qu'il est lié à un réseau de financement du terrorisme au Daghestan. Ce que conteste son avocat français Gilles Picois, qui ne comprend pas pourquoi la France lui refuse l'asile.
C'est pas un alcoolique de service qui aurait fait des confessions parce qu'on lui aurait filé 3 ou 4 bouteilles de vodka. C'est pas du tout ça. Il a des traces écrites, des informations qu'il a données. Si les services français l'avaient un peu plus écouté, peut-être qu'à Mulhouse, cet ancien magistrat réfugié serait toujours vivant. Il est un intermédiaire, un chef d'entreprise. On lui donne ce rôle d'organisateur pour effectivement être sûr du résultat. Et c'est ce rôle, évidemment, qu'il ne veut pas tenir en disant « je ne ferai pas ce boulot ». Et aujourd'hui, il est quand même habité par cette volonté d'être cru et de pouvoir témoigner de ce système.
Et au-delà de son avocat qui le défend, et c'est normal, est-ce qu'il y a des personnes qui le jugent crédible ?
Et oui, il y a un membre de l'association de défense des droits de l'homme russe, Mémorial, à Moscou, qui le soutient. Et il y a aussi le journaliste lituanien Eivaras Balsiunas. Son site, Newsroom In, a été le premier à l'interviewer longuement. Et ce qui l'a convaincu, c'est une vidéo où on voit un opposant azerbaïdjanais se faire agresser à Berlin. Une vidéo que lui a montré sur son téléphone l'homme qui se présente comme un espion repenti.
La preuve la plus éclatante, c'était l'angle de la caméra. On peut fabriquer une histoire, mais on ne peut pas inventer un tel angle de vue d'une agression si on n'est pas proche de l'agresseur. Alors, avec mes collègues, on a tenté pendant des heures de retrouver cette vidéo sur Internet, mais on n'a rien trouvé.
Oui, donc pour ce journaliste lituanien, seul quelqu'un de vraiment proche physiquement des agresseurs était susceptible de fournir une telle vidéo. Reste à savoir maintenant, Philippe, si la France extrade ce présumé espion repenti. Et la procédure, elle en est où ?
Cette semaine, la Cour d'appel de Paris devait trancher et elle a reporté sa décision pour la 12e fois. La prochaine audience est prévue le 5 février prochain et en attendant, il reste en prison, avec évidemment le risque qu'il soit renvoyé vers la Russie, très proche du régime de Bakou, ce qui serait assez terrible pour lui, selon la journaliste d'Intelligence Online, Alice Pontalier.
La Cour française a requis des preuves de la part de Moscou selon lesquelles cet homme ferait bel et bien l'objet d'accusations de terrorisme. Ces preuves ont été considérées comme largement incomplètes ou bien non traduites par la Cour, donc cette affaire en fait s'enlise. Si on le renvoie, à mon avis, la situation n'est pas du tout bonne pour lui. C'est-à-dire que s'il est avéré qu'il a aidé des membres des services et qu'il a ensuite trahi, puisqu'il a souhaité parler à nombre de journalistes et à la police judiciaire en France, les conséquences seraient dramatiques pour lui.
Bien, on verra ce qui sera finalement décidé par la justice française. Et pendant ce temps, en tout cas, le régime de Bakou ne relâche pas la pression contre ses opposants, et notamment contre l'un des plus emblématiques qu'on évoquait dans la première partie de cette émission, le blogueur Mahamat Mirzali.
Oui, et le 20 décembre dernier, il a même été encore une fois menacé directement dans l'enceinte du Parlement de Bakou. C'était retransmis à la télévision azerbaïdjanaise.
Özel kəşfiyyat şəbəkəsi, xaricdən vətən xainləri, milli simasını itirən Mirzəli, Abbaslı, Osmanqızı və digər terror mediyası.
Celui qu'on entend, c'est un député qui cite trois blogueurs dissidents exilés à l'étranger, dont Mahamat Mirzali, et il les accuse d'être, je cite, des médias terroristes. Et pour le député européen LR François-Xavier Bellamy, très impliqué dans ce dossier, cette déclaration ne doit rien au hasard. Car deux mois plus tôt, juste avant la COP29 à Bakou, le député a fait applaudir le blogueur dissident au Parlement européen de Strasbourg.
Cette venue de Mahamat Mirzali a donné lieu à un déchaînement de violence sur les canaux de la télévision publique d'Azerbaïdjan, contre lui, contre d'autres opposants, contre moi aussi d'ailleurs. Mais moi, ma situation ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est que les menaces se multiplient sur la personne de Mahamat Mirzali, qui a déjà été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Donc nous avons écrit un courrier pour dire à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne que poursuivre ces menaces, et pire encore, les mettre à exécution, ne pourrait pas ne pas avoir de conséquences. Rappelons quand même que celui auquel nous écrivons nous a lui-même ciblé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et qu'à l'occasion d'une visite de parlementaires européens à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il a diffusé la photo d'un sniper en disant « la prochaine fois, ce sera pour vous ».
Oui, donc pas sûr que cette lettre du député européen François-Xavier Bellamy à l'ambassadeur azerbaïdjanais impressionne vraiment les autorités de Bakou, d'autant, Philippe, que l'Azerbaïdjan pèse lourd pour les Européens.
Oui, grâce à son rôle de tête de pont sur la mer Caspienne, comme l'explique la chercheuse à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, Noémie Rebière.
L'Azerbaïdjan se positionne comme, on pourrait utiliser ce terme en effet, de hub de la Caspienne. C'est-à-dire que va arriver via la mer Caspienne, qui est une mer fermée, des importations en provenance du Kazakhstan et du Turkménistan.
De l'uranium aussi.
Et de l'uranium aussi, via ses ports, puis un ensemble d'infrastructures multimodales, donc des moyens portuaires, ferroviaires et de pipeline, va pouvoir exporter vers la Turquie, qui elle s'est réellement positionnée comme immense hub régional, parce qu'elle est le pont géographique entre l'Union européenne et l'ensemble des pays producteurs à l'Est.
Et il n'y a pas que pour le transport de l'uranium que l'Azerbaïdjan s'est rendu incontournable.
Oui, puisque le pays approvisionne également l'Europe en pétrole et en gaz. Écoutez Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales.
Quel le gazoduc qui relie l'Azerbaïdjan à l'Europe qui a été construit il y a quelques années, qui rejoint le sud de l'Europe, l'Italie et, la Grèce. Et aujourd'hui, il y a des projets de construire un autre gazoduc qui viendrait justement du Turkménistan, voire du Kazakhstan, pour se connecter via l'Azerbaïdjan à ce gazoduc qui ira en Europe. Donc, malgré les tensions diplomatiques, ça reste une région du monde très stratégique parce que c'est de cette manière qu'il y aura cette sécurisation de l'accès au gaz.
Et pour sécuriser cet accès, il y a une entreprise française qui est en première ligne, souligne encore Olivier Petitjean.
La principale entreprise française présente dans le pays, ça reste Total. Et je pense que, de ce fait, le dirigeant local de Total est aussi conseiller du commerce extérieur de la France parce que c'est lui qui, en fait, est le plus influent. S'il y a un message à faire passer auprès du régime azerbaïdjanais, ce sera plus efficace si ça passe par lui que si ça passe par l'ambassade officielle.
Oui, donc ce qu'on comprend, c'est que le politique et l'économique sont intimement liés dans cette affaire, et on le voit aussi au niveau de la Commission européenne.
En effet, avec la volonté de chercher à sécuriser l'approvisionnement énergétique en gaz pour contourner la Russie, ce qui n'est pas garanti à 100%. Une position intenable pour le député européen François-Xavier Bellamy, qui considère que cet accord gazier fait aussi le jeu de Moscou.
Le Parlement européen a, depuis des mois maintenant, demandé la dénonciation de cet accord gazier indécent, dont nous savons très bien qu'il n'est que l'occasion de blanchir du gaz russe, et donc, d'une certaine manière, d'organiser, c'est l'Union européenne qui organise le contournement de ses propres sanctions. C'est absolument révoltant. Mais ce qui me fascine, c'est que nous regardons l'Azerbaïdjan comme si nous étions dépendants de lui sur le plan gazier, alors que c'est une part infime de nos approvisionnements. L'Azerbaïdjan est beaucoup plus dépendant de nous que nous ne sommes dépendants de lui. Cet accord gazier, ce contrat gazier, est signé par la Commission européenne au mépris de bien des règles fondamentales du droit. Nous arriverons, j'en suis certain, à le faire tomber tôt ou tard.
Mais en attendant, d'autres projets sont sur la table entre l'Azerbaïdjan et l'Europe, comme l'installation d'un câble sous-marin géant pour importer de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables offshore.
Et avant de conclure, Philippe, il faut quand même rappeler qu'il y a 3 Français qui sont en ce moment emprisonnés à Bakou.
Oui, l'un condamné à 3 ans de prison pour des graffitis dans le métro, un autre détenu pour des soupçons d'espionnage et un troisième cadre d'une compagnie des eaux. 3 arrestations arbitraires selon la France.
Merci Philippe Reltien pour cette enquête que vous pouvez retrouver sur notre site et sur l'appli Radio France avec une carte interactive à travers l'Europe réalisée par Raphaël Canezan pour tout comprendre. Et je précise que vous avez contacté l'ambassade d'Azerbaïdjan en France qui n'a pas donné suite. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Pauline Laverdure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.